au rythme du parc. Une émission dédiée au parc naturel régional du Vercors et à son actualité. Une émission produite par Erdiwa, financée par le parc naturel régional du Vercors, diffusée sur Erdiwa et Radio Royan.
On est à Saint-Agnan pour la fête du bleu. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Avec plaisir. Donc, je suis Christelle Eustache, je suis l'animatrice de l'AOP du bleu du Vercors. Mon rôle consiste à contrôler au quotidien les agriculteurs pour voir s'ils respectent bien le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée. Et puis j'ai un rôle de promotion avec eux, donc sur le territoire de l'AOP et puis un peu plus largement voilà, au niveau national.
Le cahier des charges de l'AOP, c'est quoi exactement ?
Alors dans le cahier des charges, il y a plusieurs choses. Donc, on définit notamment l'alimentation des animaux, les races de vaches qu'il y a dans le troupeau, et on définit aussi la technologie du fromage.
La technologie du fromage,
voilà. Donc c'est une recette traditionnelle, et tous les gestes sont scrupuleusement, à chaque étape, bien marqués dans le cahier des charges. Les transformateurs, qu'ils soient laitiers ou fermiers, doivent suivre à la lettre ce qu'il y a marqué.
D'accord. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu la recette ?
Alors la recette traditionnelle, c'est vrai qu'elle est particulière, puisque autrefois, en fait, les agriculteurs gardaient le lait de la veille et le mélangeaient avec le lait chaud du matin. Donc ce geste-là continue. Le lait de la veille est porté à température du lait qui sort du pied de la vache le matin, donc c'est-à-dire à 37 degrés. Après, donc, il est mélangé. On rajoute à ce moment-là des ferments, le pénicillium pour que le bleu bleuisse. Et puis après, il y a tout un tas d'étapes qui s'enchaînent. Grosso modo, une fabrication du bleu, c'est une grosse matinée dans son atelier de fabrication. Et puis après, dans l'après-midi, il faut aller retourner. Et voilà.
Vous parliez de l'alimentation des animaux. Est-ce qu'on pouvait détailler là aussi ?
Alors, dans notre cahier des charges, les animaux sont nourris 100% avec de l'herbe. C'est un peu notre ressource première sur notre territoire. Donc, du l'herbe séchée l'hiver, le foin, et de l'herbe des prairies. Et la particularité, c'est que cette herbe, elle vient 100% de la zone. On n'a pas le droit d'aller acheter du foin à l'extérieur du territoire.
D'accord. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des pénuries d'herbe ?
Ça peut arriver, c'est vrai qu'il y a eu des années de sécheresse. Donc à ce moment-là, l'agriculteur doit trouver du foin à acheter dans la zone de l'appellation.
D'accord, mais ça ne pose pas de problème.
Là, ça ne pose pas de problème. D'accord. On garde la même biodiversité, on est vraiment dans le même contexte. Donc, et ça peut arriver. Hein. Il y a la météo, on le voit bien, cette année on a trop d'eau, il y a des années où c'est...
C'est pas facile de faire sécher du foin quand il pleut tout le temps ?
Non, c'est pas facile déjà d'aller le couper, parce qu'il y a quand même 2-3 jours où il doit sécher quand il est coupé. Donc c'est vrai que cette année, pour les agriculteurs, c'est vraiment particulièrement difficile. Ils ont des petites fenêtres de soleil vraiment très courtes, et le travail est compliqué.
Et pour contrôler, comment ça se passe les contrôles ?
Alors les contrôles, il y a des contrôles chez les producteurs. En général, on regarde dans les tables les races de vaches, comment ils travaillent. C'est vrai qu'on a le mot contrôle, mais c'est plus voilà, un cahier de ressources où on regarde comment on travaille, comment on peut encore au quotidien s'améliorer. C'est vraiment ça le cœur de métier de l'agriculture aujourd'hui sur le Vercors. Et voilà, c'est plutôt du relationnel, je dirais. Le contrôle, il se fait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de souci. Donc c'est vraiment regarder comment on travaille, comment on s'acclimate un petit peu à l'environnement et comment on peut évoluer ensemble toujours vers du mieux.
Vous n'êtes pas là pour vérifier que le foin vient bien d'ici
On regarde les parcellaires. En fait, les agriculteurs ont des cartes géographiques où sont enregistrées toutes leurs parcelles. Et ils notent à chaque fois la date où ils l'ont fauché, combien ils ont fait de bottes, etc. on étudie avec eux, on regarde comment ça s'est passé. C'est l'occasion aussi de discuter, de voir comment l'année au niveau météo a privilégié les foins, soit en qualité, soit en quantité. Donc c'est toujours intéressant d'échanger et puis voir comment on peut améliorer. Et puis c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi avec le parc naturel régional du Vercors, avec des préoccupations environnementales, et on essaye d'adapter aussi les pratiques de production avec ces nouvelles préoccupations. Nous, on a une institution qui est l'Institution nationale des appellations d'origine contrôlée qui nous suit. Et donc, on a des comptes à rendre. Donc, les contrôles, même s'ils sont relationnels, malgré tout, ils restent quand même administratifs et obligatoires. Donc, on essaye d'allier les deux dans la bonne intelligence pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et c'est vrai que c'est très facile, nous-mêmes, au quotidien, de dévier un petit peu. L'appellation d'origine contrôlée, sa particularité, c'est vraiment de rester dans la tradition, respecter le savoir-faire, respecter les hommes qui font tout ce travail au quotidien. Et c'est ça qu'on veut garder. Parce que cette philosophie, elle est belle. Et
dans ce contexte-là, il n'y a pas de tricheur.
Non, il n'y a pas de tricheur. Parce que c'est un engagement volontaire. L'agriculteur, il le fait volontairement. Il le fait parce qu'il croit en certaines valeurs. Donc on ne peut pas tricher dans ce contexte-là. À partir du moment où on le fait avec envie, ça se passe forcément bien.
Par rapport au parc du Vercors, quelle relation vous entretenez avec eux ?
Alors la zone AOC, c'est 27 communes qui sont au cœur des 84 communes du parc naturel régional du Vercors. Et quand les producteurs de lait dans les années 90 ont commencé à travailler sur cette démarche d'appellation d'origine contrôlée, ils se sont tournés vers le parc pour leur présenter ce projet. Et le parc a tout de suite accroché et vraiment leur a facilité les démarches. Et c'est vrai que de travailler main dans la main avec des philosophies communes, on est forcément plus fort et on arrive à avoir des objectifs qui veulent dire quelque chose.
Les philosophies communes, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ?
C'est travailler sur l'environnement, respecter cette biodiversité qui nous est offerte sur ce magnifique territoire. Par exemple, pour être un peu plus concrète, c'est travailler sur des fauches un peu plus tardives, parce qu'on sait que les fauches un peu précoces nuisent à la faune, nuisent à certains insectes notamment. Donc comment on demande à l'agriculteur de changer un petit peu ses pratiques, sachant que son travail il est lié aussi à la météo. Donc c'est un joli travail de concert. Voilà, qui évolue dans le temps parce qu'on ne peut pas changer ses pratiques du jour au lendemain. Donc quand on en parle, quand on comprend pourquoi on fait les choses et qu'on constate qu'il y a de l'amélioration et que finalement ça ne change peut-être pas foncièrement ni la qualité du forage, ni quoi que ce soit, et qu'au contraire on retrouve une certaine biodiversité, je pense que pour tout le monde c'est une belle satisfaction.
Sur la fête du bleu, ce que vous vivez ce week-end ?
Donc la fête du bleu, elle a été initiée en 2001 par justement le président du parc naturel régional du Vercors qui voulait répondre à une attente des producteurs de la filière qui était de faire connaître son fromage puisqu'il avait disparu après la Seconde Guerre mondiale et qu'il en restait très peu dans les années 90. Et donc, on avait un projet, les agriculteurs avaient un projet de promotion, ce qui était de faire une maison du bleu à Lens-en-Vercors. Et ce projet, pour maintes raisons, n'a pas abouti. Et le président de l'époque nous a dit, écoutez, moi je vous propose de faire une action de promotion, plutôt qui serait itinérante, qui se poserait chaque année sur une commune de la zone AOC différente, en alternance Drôme-Isère. Et voilà. Donc on nous a donné du renfort humain, on nous a donné les moyens financiers. L'objectif de départ qui était vraiment de réapproprier le fromage aux habitants du territoire, ça a été un résultat au-delà de nos espérances, dans la mesure où tout de suite les habitants du village d'accueil se sont emparés de la manifestation et à chaque fois elle est toujours plus belle. Elle est toujours très accueillante, ils mettent toujours énormément de cœur et ce beau travail collectif, cette vitrine qu'on arrive à montrer, elle est vraiment reconnue maintenant à l'extérieur et très enviée même par d'autres territoires. Un aboutissement d'un travail, d'un objectif, mais au-delà de ça, c'est vraiment une belle aventure humaine.
Oui, c'est pas seulement la promotion d'un produit, acheter, c'est aussi se rassembler.
Exactement.
C'est comment... ce qu'on aime.
Voilà. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on se rend compte que finalement, on n'habite pas si loin les uns des autres et qu'on ne connaît pas forcément les activités de nos voisins. Et cette manifestation, elle permet déjà de se rencontrer, de partager. Et on se rend compte que du coup, après, ça génère... du travail collectif qui n'existait pas avant. Il y a toujours une marque. La fête du bleu, quand elle passe sur un territoire, il en reste toujours quelque chose. Et voilà. Et ce qui est amusant aussi, c'est par exemple quand on passe encore aujourd'hui à Corrençon-Vercors, la fête du bleu est passée sur cette commune en 2005. Et le thème de cette manifestation, c'était la vache. Et tous les habitants avaient fait la vache qui leur ressemblait. Enfin, une vache humoristique, une vache, voilà, sur une thématique différente. Et quand on traverse le village encore aujourd'hui, ces vaches, elles jalonnent encore le village. Elles sont accrochées sur les balcons, elles sont accrochées dans les cours. Et c'est toujours assez satisfaisant de voir ça, que ça perdure. Et ce qui est aussi fort dans cette manifestation, c'est qu'on a appris à travailler ensemble et que... aujourd'hui, cette manifestation, elle génère énormément de besoins techniques. Quand on a besoin d'une table, quelque chose, on peut appeler n'importe quelle commune. La table, elle est là dans la mi-journée qui suit. Parce que ça a généré une entraide. Et ça, c'est une force incroyable.
Je vous remercie.
Mais je vous en prie.
Bonjour. Donc moi en fait je suis Aurélie Gachon, je travaille pour l'association pour la promotion des agriculteurs du Parc du Vercors, qu'on nomme l'APAP, en coopération bien sûr avec le Parc du Vercors. Je gère aussi le patrimoine vivant, donc tout ce qui est cheval du Vercors et vache Villard de Lans. Et je travaille sur le volet producteur du programme Alimentation, Santé et Territoire, dont le but en fait est d'approvisionner en produits bio et locaux la restauration collective. Donc ça aussi, c'est un programme parc sur lequel je travaille avec eux. Donc après, les missions, je peux les détailler un petit peu. Donc au niveau marque parc, c'est plutôt... Il y a 5 productions plus particulières qui bénéficient de cet estampillage. Donc c'est la viande bovine, l'agneau, les plantes à parfum aromatiques et médicinales, et truite et salmonidée, et fromage et produits laitiers fermiers. Donc la plus ancienne étant la marque Parc Viande, qui avait été créée dans un contexte de crise de la vache folle. C'était pour rassurer le producteur qui était donc, on va dire, assuré que la viande était produite localement. Donc il y a des chartes qui encadrent chaque production, du respect du bien-être animal, l'alimentation, du produit local, en fait de bout en bout sur la chaîne pour que le producteur soit assuré d'avoir un produit sain. Voilà.
Donc il y a une traçabilité.
Il y a une traçabilité, par contre on ne peut pas parler comme un label bio de garantie, parce que ça c'est... on ne peut pas garantir, on ne peut pas certifier. On suit une charte, on peut assurer certaines choses, mais pas certifier que... Voilà. On ne parle jamais de qualité.
C'est quoi la différence entre les deux ?
La qualité, c'est par exemple certifié bio, ça vous assure une qualité, ça répond à quelque chose
de
bien précis. Et on va dire, ils n'ont pas le monopole, mais c'est un peu comme ça. Donc voilà, donc on a ces 5 productions qui sont marquées. Donc on peut en marquer d'autres. La marque parc produit, c'est national. Hein. C'est-à-dire que tous les parcs naturels en fait, régionaux peuvent la mettre en place sur, pas ce qu'ils veulent, mais là sur des produits agricoles. Et après, en fonction de leur spécificité de production locale, choisissent eux-mêmes d'en développer ou pas. Et forcément, il faut que derrière, il y ait des producteurs qui souhaitent s'engager là-dedans. On va dire, on colle au plus près de leur métier, puisque bon, on ne leur demande pas de faire plus. On leur demande juste de continuer à travailler comme ils le font. Et on surveille ou vérifie plutôt qu'ils restent toujours à respecter la charte. Mais nous, sur le parc du Vercors, on est toujours dans la bonne ligne et on n'a pas de soucis pour faire respecter ça. On a des producteurs qui sont engagés, qui y croient. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant de travailler avec des personnes comme celle-là, qui elles sont de qualité et qui croient en leur métier. Et ça, c'est vraiment agréable, quoi. Après, au niveau patrimoine vivant, donc là, en fait, je travaille plutôt avec... On appuie technique sur 2 associations. Donc, il y a une association pour le cheval du Vercors et une association pour la vache Villard de Lans. Donc, ils sont 2 associations locales. Sur le volet cheval du Vercors, donc, c'est pas une race au sens certifié par les haras nationaux. On est en train de travailler sur la reconnaissance de cette race. et qui en fait a un historique très particulier sur le Vercors, puisque c'était un cheval qui transhumait entre le Vercors et la plaine de l'Acro. Donc l'hiver, on va dire, il descendait dans l'Acro, on va dire, à la pas trop belle saison, et l'été, il remontait sur le Vercors, donc ça a une historicité de transhumance assez particulière.
La première fois que j'entends parler d'un cheval transhumant.
C'était les moines de l'abbaye de Léoncel, en fait, qui géraient plus particulièrement ça au départ. Et après, il y a la fameuse famille Barracan qui est arrivée. Donc les gens, en fait, ici, connaissent plus le cheval du Vercors sous le nom de Barracan. C'est un nom qui parle. Donc l'association a souhaité garder le titre Barracan, puisqu'on travaille encore avec un des descendants de cette famille. Donc il s'appelle le cheval du Vercors dit Barracan, pour que dans l'esprit des gens, ça continue à véhiculer une image qui était connue, puisqu'en fait on avait des troupeaux de chevaux qui traversaient, qui transhumaient réellement, comme on peut voir les vaches lors des fêtes de la montagne, des choses comme ça, donc qui traversaient pour revenir sur leurs origines respectives. C'est assez intéressant. Donc là, on a aussi des éleveurs motivés, donc ils sont présents aujourd'hui avec nous sur les fêtes du bleu, notamment pour mettre en avant cette petite race, on va dire, entre guillemets, parce qu'on n'a pas énormément de spécimens, mais en tout, entre le berceau Vercors et le berceau Cro, on arrive à 100-150 individus, et le but est de continuer à garder pour pouvoir développer la race et la faire reconnaître au mieux. Donc c'est un petit cheval qui a la particularité d'être rustique forcément, puisque c'est un cheval de montagne, au pied sûr, docile, parce qu'on peut le mener comme on veut, c'est-à-dire il peut faire de l'attelage, il peut faire de la monte en sente équestre, de la monte en randonnée, du bas, et il y en a même qui commencent à l'utiliser en débardage. Donc on reste dans une utilisation au plus proche du territoire. Et il fait même beaucoup d'entretien on va dire d'espace, puisque c'est un cheval qu'on peut mener, je dirais pas comme une vache, mais il arrive à se suffire, c'est pas un cheval qui va être fragile. Donc on peut le laisser dehors abrouter l'herbe sans problème pour qu'il fasse de l'entretien de l'espace. Donc c'est quelque chose qui est assez particulier pour un petit cheval très varié au niveau utilisation. Donc on a une quinzaine d'éleveurs là sur le plateau du Vercors et on en a 7 ou 8 dans l'Acro qui sont en train de travailler sur la reconnaissance de la race. Donc on espère y arriver dans un temps assez court parce que ça prend du temps.
Pour faire reconnaître une race, c'est quoi le processus ?
On monte un dossier, donc il faut un minimum d'individus, un minimum de naissances, donc ça c'est bien codifié. Hein, donc voilà, on travaille avec la direction générale de l'alimentation, puisque c'est eux qui mènent ça. Et donc on a tout un processus, et on va dire notre petit point fort, c'est qu'on a un cheval qui a de l'histoire. Et ça c'est un gros point fort pour faire reconnaître une race, puisque voilà, et les haras nationaux nous aident énormément. On a le délégué aux races de territoire qui vient, qui nous aide aussi à, on va dire, à, pas motiver, mais à promouvoir cette reconnaissance qui est très importante pour garder ce patrimoine typique du Vercors et de l'Acro, en fait. Et on a les éleveurs qui sont derrière, donc ça, c'est bien. Après, on a le volet Villard de Lens, donc race bovine Villard de Lens, donc que nous, on appelle la Villarde, pour faire plus court. Oui. Donc, qui est aussi présente à toutes les fêtes. C'est une petite vache qui est couleur, on va dire, épi de blé, froment. Donc elle aussi qui est une race à petits effectifs que nous menons aussi au Salon de l'agriculture à Paris, qui nous permet d'y être, puisqu'elle rentre, son lait rentre dans la composition du bleu du Vercors Sassenage, donc de l'AOP. Donc le but est de pouvoir aussi augmenter l'effectif, parce qu'actuellement on n'a que 400 vaches en France, donc ça fait pas beaucoup.
Et elles sont sur le plateau du Vercors ou il y en a un petit peu ailleurs ?
En grande majorité sur le plateau du Vercors, et après il y en a un peu dispersé dans d'autres régions, parce qu'on a beaucoup de gens qui aiment avoir des races un peu typiques, puisque c'est aussi une race typique, rustique d'ici. Hein. En fait c'est une race mixte à la base, c'est-à-dire qu'elle fournissait aussi bien le lait que la viande, et les anciens l'utilisaient aussi pour sa force de travail, c'est-à-dire qu'elle permettait de mener le joug pour aller tirer l'arrière dans les champs. Bon, malheureusement, la mécanisation a fait que ce pendant-là de cette vache a été abandonné au profit des machines et qu'on est resté, au fur et à mesure, on a plutôt axé sur des races à beaucoup plus haut potentiel, on va dire, qui produisent beaucoup plus de lait pour le fromage et forcément beaucoup plus de viande. Et on est en train de la voir revenir dans les troupeaux parce que c'est une bonne mère. donc une très bonne mère, c'est-à-dire qu'elle limite, elle va donner plus de soleil à son petit au maximum que de le produire. Elle porte bien, donc c'est-à-dire que bah, pour faire des petits, elle est bonne. Elle arrive même à accepter d'autres mères pour pouvoir les élever. Donc ça, c'est quelque chose de très important en fait. Et là, on veut, grâce à l'AOP, arriver à remettre de la Villarde dans les troupeaux, parce que c'est l'image de cette production de fromage. Donc c'est celle qu'on voit sur les panneaux à l'entrée du parc. Donc on veut que les gens puissent la voir
aussi dans les champs.
Et on a aussi donc des éleveurs très particuliers qui n'ont que ça dans leurs troupeaux. Donc on a des éleveurs laitiers qui n'ont que ça, notamment un élevage sur la Chapelle en Vercors, qui n'a que des vaches Villardes. Il vient juste de prendre deux, trois abondances qui sont aussi dans la composition, le lait est aussi dans la composition du bleu. Et à l'inverse, on a un élevage que de Villardes sur le plateau, sur le parc du Vercors, qui est à Iseron. Donc voilà, on a réussi nous à conserver ce qu'on, dans le jargon, on appelle les deux rameaux, le rameau laitier et le rameau viande. Donc voilà, ça me fait une particularité. Donc cette petite vache, on essaye de continuer à la faire avancer. Donc on est en train de travailler sur beaucoup d'aspects techniques pour la faire reproduire du lait en quantité un peu plus importante pour qu'elle arrive au même niveau, un niveau un peu plus important de lait puisqu'elle avait quand même beaucoup perdu. Donc voilà, c'est du technique, mais c'est très intéressant parce que là aussi les éleveurs sont derrière, tiennent à leur remettre et à la faire voir aux gens puisque les gens la cherchent, donc bah, il faut qu'elle soit là. Donc c'est ça, un des cœurs de métier aussi de la PAC.
Il y avait un troisième volet ?
Il y a un volet alimentation, santé et territoire. Donc ça, c'est un gros programme qui a été initié en 2005. Donc il y a eu plusieurs étapes. Et là, on est dans une phase de programme, ce qu'on appelle pluriannuel. Donc il marche par trois années d'exercice. Donc le but, comme je disais, c'est d'introduire en restauration collective des produits bio et ou locaux. Donc on sait qu'actuellement, ça prend beaucoup d'ampleur au niveau des cantines scolaires, de certains aussi, établissements de santé, des choses comme ça. Et on veut continuer à prôner ça. Donc on travaille au niveau du parc du Vercors. On a une clientèle un peu particulière qui est celle des centres de vacances. C'est une des cartes de notre spécificité du parc. C'est qu'on a beaucoup de centres de vacances qui accueillent des jeunes en court séjour. Mais voilà, donc on se sert en fait de ce vecteur pour travailler sur l'introduction. Certains centres ont développé une activité de cantine pour les locaux, donc ça fait une carte aussi à jouer et on continue en fait à développer au fur et à mesure. Et là, on est en train de prendre plus d'ampleur parce qu'on a élargi, on n'est pas resté que sur le territoire du parc, on a élargi au territoire limitrophe parce que sur certaines productions, on n'est pas du tout autosuffisant. Et notamment, on sait bien que le parc du Vercors a beaucoup plus de difficultés à produire notamment des fruits et des légumes. Donc on s'appuie aussi sur nos territoires voisins. Donc quand je dis voisins, c'est Grenoble, Valence, voilà, on prend les spécificités de chacun pour arriver à avoir une offre de qualité et en quantité suffisante. Et on continue de se développer avec des partenaires que sont les conseils généraux, bah, bien sûr le parc, les communautés de communes, tous ces acteurs en fait qui sont là. Pour véhiculer ce message de bien manger avec des produits de terroir.
Mais je vous remercie.
Non, je ne sais pas si ça...
Très ouais, bien, vous avez voilà. Super bien sorti.
Bonjour, donc moi c'est, donc, c'est Drogue Emmanuel. Je suis éleveur sur Saint-Martin-Vercors, en GAEC, donc, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs associés, donc on est trois sur la ferme. On produit du lait avec des Montbéliardes. On est en agriculture biologique et on transforme à la ferme. Donc, c'est-à-dire qu'on produit du bleu à la ferme. Je suis également président de l'association des éleveurs du canton de la Chapelle, donc, qui réunit 5 communes du canton. On est là aujourd'hui pour parler d'une fête, d'une race, même de 3 races qui sont la Montbéliarde, l'Abondance et puis la Villarde. Et puis d'une fête qui se tourne autour d'un produit, donc le bleu du Vercors Sassenage. Qui se produit sur notre territoire. Sur cette fête, on a les 3 races qui sont représentées. Donc, c'est les 3 races obligatoires, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir d'autres races. Donc c'est la Montbéliarde, l'Abondance et la Villarde. C'est vrai que le territoire travaille beaucoup sur la réintroduction de la Villarde dans les troupeaux. Et c'est vrai que ça va être un gros travail là, parce que la Villarde a un gros... déficit en termes de production et de progrès génétique par rapport aux deux autres races. Une Montbéliarde va faire 5-6 millilitres de lait en moyenne par an, alors qu'une Villarde va en faire 3000. Donc on ne peut pas demander aux éleveurs de prendre 10 Villardes dans leur troupeau, parce que ça veut dire qu'il y a un sacré manque à gagner en termes de production et ouais, que financièrement, les exploitations ne peuvent pas se le permettre.
Parce qu'elles mangent autant.
Voilà, ça prend la place d'une Montbéliarde. Donc alors, il va falloir faire un gros travail de fond pour essayer de réintroduire quelques Villardes au niveau des troupeaux.
C'est quoi les arguments?
C'est vrai qu'elles ont des meilleurs taux, donc c'est-à-dire qu'il y a un meilleur rendement fromager au niveau de la Villarde. Mais c'est surtout que on essaie de véhiculer une image avec le bœuf du Vercors Cessenage et la Villarde en fait partie. Donc c'est tout un ensemble et c'est pour ça que à l'heure actuelle on parle du bleu mais on parle aussi de la Villarde. Le but c'est d'en avoir retour dans les exploitations parce que si on parle de la Villarde et du bleu et qu'on se promène sur le plateau du Vercors et qu'on ne voit pas de Villarde dans les champs, à un moment donné il y aura un problème.
Ça cloche.
Voilà, donc le but il est là. C'est pas de faire exploser la race Villarde. Le but il est que voilà, on y travaille, on parle de la Villarde, il faut qu'on en voit. Le but aussi c'est de mettre quelques Villardes, une ou deux pour l'instant, dans tous les troupeaux qui sont dans la zone, pour essayer de travailler sur cette race justement. Parce que travailler avec 10 vaches et travailler avec 200, les résultats ne sont pas pareils, sont bien plus fiables. Donc plus il y a de Villardes, plus les résultats seront fiables et plus on ira vite dans le progrès génétique justement et pour essayer de se pallier ce problème de production pour réduire l'écart qu'il y a entre une Villarde et puis une Montbéliarde. Et il n'est pas de faire des Villardes à 6 000 litres de lait ou 7 000, c'est pas le but. Mais qu'il y ait d'essayer de réduire l'écart pour que les gens se mettent à réintroduire un peu la Villarde dans leur troupeau.
Est-ce que vous voulez bien parler un peu de votre boulot au quotidien? Ça consiste en quoi?
Le rythme, il est donné matin et soir déjà par la traite. Donc ça, c'est une astreinte qui est de plus en plus compliquée à gérer parce que c'est matin et soir. Il faut être un maximum régulier au niveau des horaires et c'est 7 jours sur 7. Ça va de, en moyenne, c'est 3-4 heures, matin et soir.
Du coup, peut-être ça a de l'intérêt de s'associer, d'être à trois. Vous avez parlé de la GAEC, vous êtes trois. Est-ce que ça veut dire que vous vous relayez ou bien vous travaillez chacun dans votre coin?
Voilà, donc le but des GAEC, c'est de partager un peu le travail, justement de pouvoir s'arranger et d'essayer de limiter justement cette astreinte de traite. Donc le GAEC permet justement de pouvoir se libérer et de profiter un peu de sa famille et puis de faire autre chose, quoi. Que c'était pas le cas avant.
Pourquoi vous avez choisi ce métier-là?
Parce que je l'aime. Mes grands-parents avaient une ferme. Je suis originaire de Grenoble. Donc mes grands-parents ont vécu sur le Vercors, mes oncles aussi. Mais moi j'ai grandi sur Grenoble. Et je suis toujours monté sur le Vercors chez mon grand-père pour travailler à la ferme depuis que je suis tout petit. Après mon oncle a repris la ferme. Et je suis monté travailler avec lui pendant les vacances. Et j'ai décidé d'aller dans l'école d'agriculture parce que ça me plaisait. Et je suis remonté donc de Grenoble, je suis remonté sur le plateau du Vercors. Depuis 2003, je suis installé. Je suis parti avec donc Daniel Vignon, mon associé. Lui avait déjà créé la fromagerie. Donc il avait la fromagerie qui fonctionnait. Il avait la clientèle. Donc on a décidé de monter un projet. Pendant un an, on est resté chez un agriculteur qui était proche de la retraite, à qui on a acheté une quinzaine de vaches et il a gardé une quinzaine des 15 autres. Et donc on s'est arrangé, nous on s'occupait de toutes les vaches et il ne nous faisait pas payer la location du bâtiment, c'est-à-dire que dans le même bâtiment il y avait les deux troupeaux. Ça nous a permis de démarrer, donc je tiens à le remercier parce que sans ça ça aurait été très compliqué de s'installer en n'ayant pas de bâtiment. Et donc pendant que les vaches étaient sur cet exploitant, on a créé un bâtiment. Donc on a construit un bâtiment et donc on a démarré en 2004 et on a donc déménagé les vaches en 2006 dans le nouveau bâtiment. Et de chaque année, en termes de production, on est parti à peu près à 150 000 litres de lait. À l'heure actuelle, on est à 200 000 litres de lait par an et on en transforme quasiment 130 000 litres à la ferme. Et le reste, donc on y vend à la laiterie vers Corlay à Villa. Aujourd'hui, on a 35 laitières. Et entre 30 et 40 génisses pour faire le renouvellement du troupeau. On a 90 hectares.
Une exploitation moyenne sur le Vercors, c'est combien de vaches?
Alors vous avez deux solutions, c'est soit vous produisez du lait. Et si vous voulez les vivre à deux sur une exploitation, il faut au minimum 60 vaches, 50-60 vaches laitières, pour arriver à vivre décemment, pour faire vivre deux familles. Nous, on a 35 vaches, on est bientôt 3. Et la différence, elle se fait parce qu'on transforme. C'est-à-dire que notre lait est directement vendu aux consommateurs. Donc il n'y a plus d'intermédiaire. Et ça nous permet justement d'avoir une plus petite exploitation. Par contre, le travail n'est pas le même. Il vaut mieux traire 60 vaches à deux. C'est le même travail, mais divisé en deux. Par contre, quand vous rajoutez de la transformation et de la vente directe, vous rajoutez beaucoup de casquettes. C'est-à-dire que vous êtes producteur de lait, vous êtes producteur de fromage, vous êtes commercial, vous êtes livreur, vous êtes secrétaire parce qu'il faut suivre les commandes, il faut suivre les factures. Donc ça rajoute énormément de travail. Donc voilà, la compensation financière, elle se fait aussi par rapport au travail. Parce qu'il y a moins de bêtes pour arriver à vivre. Par contre, le travail est doublé, voire triplé.
Je vous remercie.
Au rythme du parc. Une émission produite par Erdiwa, financée par le parc naturel régional du Vercors et diffusée sur Erdiwa et Radio Royan. Thank you.